BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour, il est 9h30 pile, c'est le nouvel horaire des experts désormais, 9h30, 10h30, tous les jours. Bienvenue dans l'émission, on est parti pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique, avec toujours nos quatre questions du jour. D'abord, les entreprises doivent-elles payer pour la crise? Entre hausse du SMIC, gel du barème des allègements de charges et pression pour ouvrir les négociations salariales, les entreprises se retrouvent prises en étau au moment où la croissance ralentit. Alors, ont-elles raison de mettre la pression sur l'exécutif? Le patronat a demandé un rendez-vous en urgence à Sébastien Lecornu. Ce sera le premier thème des experts ce matin. Et puis, est-on has-been dans l'entreprise passé 50 ans? Bien que leur taux d'emploi progresse, les 55-64 ans dénoncent une discrimination à l'embauche, une placardisation au quotidien et une invisibilisation au sein de l'entreprise. Alors ont-ils raison d'avoir peur? Faut-il changer de regard sur les seniors dans l'entreprise? Ce sera le deuxième thème du jour. On viendra aussi sur les tensions obligataires qui sont apparues en fin de semaine. Faut-il craindre un crack sur les marchés? Partout, les taux d'intérêt s'envolent et atteignent des niveaux qui menacent de faire craquer les bourses mondiales. Un sujet qui sera à n'en pas douter discuté au G7 Finance qui a ouvert ses portes ce matin. C'est à Bercy. On verra si les grands argentiers de ce monde sont encore capables de se parler. La dernière question du jour, le multilatéralisme bouge-t-il encore? Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 32 minutes. On est parti pour une heure de débat et de controverse. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Céline Antonin. Bonjour Céline.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE. À vos côtés, Léonidas Kalogeropoulos. Bonjour Léonidas.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments. Et Jean-Charles Simon.
Et des entrepreneurs pour la République, pardon de préciser.
Et des entrepreneurs pour la République, absolument. Vous faites bien. Et Jean-Charles Simon. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Président de Propriété et Liberté. Le premier sujet ce matin, c'est... Si je fais la synthèse et si je fais rapide, hein, est-ce que les entreprises doivent passer à la caisse? Doivent-elles participer au paiement de la crise? Ben oui, évidemment.
Non, mais elles passent tout le temps à la caisse. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, d'embrayer sur
allez,
le sujet.
Allez, mais allons-y.
Finalement, mais objectivement, moi, j'ai bien vu que le patronat avait adressé des courriers au gouvernement.
Oui, il faut qu'on
parle. À Bercy.
Et qu'on explique pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi tout ça, peut-être ces derniers jours. On est à quelques jours de l'annonce des détails des 6 milliards d'économies que doit annoncer Bercy pour tenir la trajectoire de réduction du déficit cette année, en 2026. Et parmi ces 6 milliards, il y a 2 milliards qui viendraient du gel des allègements de charges sur les bas salaires entre 1 et 1,3. 3 SMIC, des allègements qui doivent augmenter avec l'augmentation du SMIC au 1er juin. Alors le grand débat, c'est est-ce que les entreprises doivent porter une partie de ce gel ou pas?
Écoutez, le fait est qu'elles portent globalement tout, les taxes qui ont été votées, les relèvements de taxes, enfin, globalement, je pense que ça a été chiffré à peu près 51 milliards, les taxes supplémentaires qui pèsent sur les entreprises pour essayer de rattraper la croissance qui certes baisse mais qui n'arrête pas de croître des dépenses publiques. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un observatoire permanent des économies réalisées par l'État parce que renvoyer sur les entreprises des économies en permanence, c'est finalement faire le constat que cette croissance peut-être à tout petit peu maîtrisé, mais néanmoins continue de la dépense publique malgré une situation budgétaire absolument désastreuse. C'est quand même la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Maintenant, on est dans un début de spirale inflationniste qui est, on l'a tous étudié, c'est parfaitement documenté, parfaitement empiriquement vérifié, qu'à partir du moment où on a cette course de rattrapage par les salaires, de l'augmentation des prix, qui dès lors augmente, eh bien, on alimente la croissance de l'inflation.
Oui, c'est ce qu'ils appellent les effets de second tour, effectivement, avec l'indexation du SMIC, ça peut nourrir
ces effets de second tour. Donc, on est reparti dans cette boucle, et on nous demande, en quelque sorte, de venir financer cette boucle en acceptant de renoncer aux allègements de charges qui sont la recette qui a marché qui a permis de faire baisser le chômage dans notre pays. Donc on est en train d'alimenter le redémarrage de chômage et on a déjà franchi le seuil des 8%.
Au premier trimestre.
Donc véritablement, à la limite, plutôt que de se renvoyer la balle, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait regarder de façon globale comment on aborde cette situation de crise avec les tensions sur l'énergie qui provoquent les autres crises dont nous allons parler. J'ai le sentiment qu'on est un peu en train de bricoler et qu'il faudrait un tout petit peu arrêter le compteur ne serait-ce que 10 jours.
On va écouter le ministre de l'économie et des finances sur ces allègements de charges. Voilà ce qu'il dit aux entreprises.
Aujourd'hui, si je ne fais rien, les aides ne baissent pas. Ce que souhaite le patronat, c'est qu'elles augmentent de 2 milliards. Avant de les augmenter de 2 milliards, de manière généralisée pour tout le monde, moi je veux voir si les salaires augmentent, le donnant-donnant, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets d'aubaine. C'est-à-dire que si demain, j'augmente les allègements de charges de 2 milliards d'euros, des chefs d'entreprise qui n'auront pas augmenté les salaires toucheront des aides supplémentaires. Ça me semble injuste aujourd'hui.
C'est un effet d'aubaine pour les entreprises, Céline Antonin.
Oui, enfin, disons, je pense plutôt que le gouvernement est dans une équation très compliquée parce que effectivement, les allègements de charges, le montant global, alors je vais pas me faire le chantre de la défense de l'État, mais le montant global des allègements de charges, il est passé d'à peu près 60 milliards d'euros en 2021, me semble-t-il, à 80 milliards. Donc, en fait, on a quand même un renchérissement du coût de ces allègements. Et en fait, économiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi dénoncé les effets de trappe à bas salaire, etc. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi dans la rhétorique, et il y a le fait que on a énormément ciblé les salariés au SMIC, sachant qu'on a en fait aussi une économie qui s'est smicardinisée avec 20% des salariés qui sont
au
SMIC.
Rien de mort, on est d'accord.
C'est un pourcentage important, et on a l'impression que plus on a effectivement subventionné au niveau du SMIC, et plus on a maintenu des gens au niveau du SMIC. Donc ça, c'est un peu un autre débat, mais c'est quand même assez lié aussi. Alors effectivement, tout ça, ça plaiderait pour le fait de dire on va pas trop continuer à alléger au niveau du SMIC, et en même temps, c'est vrai que les marges des entreprises sont comprimées en ce moment. On a une faible demande. On est dans une situation économique. Voilà, on est dans une situation économique pour les entreprises qui est plus compliquée que celle qu'on a connue même en 2021-2022. Ben oui. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, je pense que la solution, enfin, c'était un peu ce que disait le rapport Vasmer-Bozio, et c'était vraiment l'idée de repenser complètement la manière dont on allait justement gérer ces abattements avec une dégressivité qui soit vraiment continue et pas des effets de seuil, puisqu'il y avait des gros effets de seuil. Alors ça a commencé à être fait en 2026.
Ça a été fait un peu,
voilà,
hein,
tout à
le
fait.
Lissage de la courbe des allègements de charges.
Tout à fait. Alors, c'est la réduction générale dégressive unique, justement, qui fait ça. Mais après, il y a la question du barème. Donc, il y a d'autres questions qui se posent. Mais je pense que c'est ça qui va dans le bon sens. C'est vraiment réfléchir à la façon dont on n'a pas ces effets de seuil et dont on arrive à désmicardiser l'économie. Parce que c'est peut-être un point sur lequel je reviendrai. Mais ça, c'est très important. C'est vrai qu'on va le revoir avec la question de l'indexation du SMIC et de l'inflation. Puisque l'inflation fait que mécaniquement, le SMIC est réévalué. Mais c'est pas forcément le cas des salaires au-dessus, et donc on a une compression des salaires vers le bas, et aujourd'hui c'est vraiment cette dilatation de l'échelle des salaires qu'il faudrait. Ah oui. Et c'est pour ça que je suis moi autant partisane de la négociation collective et de la reprise de la négociation collective en entreprise. Je pense que c'est ça l'urgence, enfin, pour moi en tout cas.
Est-ce qu'il faut pas revoir tout simplement ces mécanismes d'indexation automatique sur l'inflation, tant sur les salaires qui écrasent les classes moyennes? On voit bien, hein, qu'autour d'un SMIC et demi de SMIC, on se rapproche de plus en plus du niveau du SMIC, ce qui crée une tension politique, mais aussi du côté des allègements de charges. Est-ce que c'est normal que quand on augmente le SMIC, on soit à 3 SMIC en gain de cotisation patronale, alors qu'on n'a rien touché ni au salaire brut, ni à celui que touche le salarié, Jean-Charles?
Les allègements, c'est on a mis le doigt dans une machine absolument terrifiante il y a 30 ans. Et c'est très difficile d'en sortir. C'est ça le problème. C'est une fois qu'on y est entré, c'est très difficile d'en sortir. Mmh. On a des allègements qui sont une fonction, c'est même pas une fonction du SMIC, c'est une fonction du SMIC au carré. Parce que c'est un multiple du SMIC jusqu'à un multiple du SMIC.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez 40 et quelques pourcents du SMIC qui est au niveau du SMIC qui est déchargé, et puis vous allez jusqu'à 3 SMIC dans la fameuse réduction générale qui a permis de lisser les effets de seuil qui préexistaient avant. Et en fait, tout ça, 80 milliards, comme c'était rappelé, c'est un investissement colossal à
C'est la moitié. On est passé de 50 à 80 milliards depuis 2020.
C'est la moitié du déficit public.
Colossal.
C'est la moitié du déficit public. Et en fait, on est dans une économie avec l'effet trappe à bas salaire qui est bien connu. C'est-à-dire que marginalement, c'est très coûteux d'augmenter quelqu'un qui est au SMIC pour l'employeur avec très peu d'effets bénéfiques pour la personne concernée. Et effectivement, cette smicardisation de l'économie qui est, moi, depuis toujours, ce qui me pose le plus de problèmes. Parce qu'en fait, on est il faut le dire, tout à fait singulier dans ce dispositif par rapport à nos pays voisins. Ah. C'est-à-dire qu'on a un système dans lequel on subventionne massivement les bas salaires avec les allègements de charges, mais pas seulement. Il y a la prime d'activité, parce que le ministre oublie de dire un truc, c'est qu'il a augmenté la prime d'activité de 50 euros par mois et que celle-ci, elle est aussi dégressive en fonction du salaire et au plus haut au niveau du SMIC. Et donc, en fait, on a une double subvention des bas salaires et inversement, c'est là où on est doublement paradoxaux et singulier par rapport à nos voisins, c'est qu'on a le travail qualifié, si je puis dire, le travail bien payé, qui lui est taxé comme nulle part ailleurs, comme nulle part ailleurs. Si vous avez des taux de 45% sur les à partir de 3 SMIC à plein, et puis ça monte rapidement entre le SMIC et
là on a un forfait social en Allemagne par exemple.
Et là pour le coup, personne n'a des charges patronales comme ça et en plus elles sont quasiment déplafonnées en France. Donc je prends un pays comme l'Allemagne. En Allemagne, vous êtes à 19,6. 19,6 au niveau du SMIC, 19,6 au niveau de 3 SMIC, et ça s'arrête à 90 000 euros. Là, à partir de 90 000 euros, il n'y a plus 1 euro de cotisation sociale patronale obligatoire, ni salariale d'ailleurs. Et donc, vous avez une situation totalement duale du marché du travail en France, et totalement paradoxale par rapport à ce qui existe à l'étranger, c'est que, en fait, vous tapez à mort le travail qualifié, et vous avez subventionné. Donc, non seulement il y a l'effet sur le marché du travail, mais il y a l'effet sur le marché du capital. Parce que pour un investisseur, c'est super intéressant d'aller investir dans une activité avec que des gens au SMIC, et, oui. et très dangereux d'aller investir dans une activité avec des gens très bien payés.
C'est le mécanisme de smicardisation d'un pays parfaitement expliqué.
Pour illustrer ça, si on veut augmenter de 100 euros net un salarié au SMIC, il faut 442 euros de plus en coût du travail. Donc c'est dire combien c'est difficile de sortir de cette trappe, et c'est pour ça que c'est quand même une singularité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Mais il y a deux choses que j'aimerais mettre en perspective de ce qui vient d'être dit et parfaitement analysé avec des chiffres très précis. C'est que, à la limite, quand je lis ce que dit la secrétaire générale de la CFDT sur les salaires et...
Je voulais qu'on en parle. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Un impératif, selon Marie-Lise Léon,
non, je pense que
secrétaire générale de la CFDT.
Ce que dit Céline Antonin est tout à fait juste. Le fait de faire payer 440 euros à l'entreprise d'augmentation de 100 euros. Ça, c'est le point sur lequel tant les syndicats que le patronat et le gouvernement devraient pouvoir se réunir. Et j'allais presque dire, vous savez, c'est comme en Europe, plus on est en situation de crise et plus on arrive à trouver des solutions. On est dans une crise politique majeure, on est dans une crise économique avec des tensions dans tous les sens. C'est peut-être le meilleur moment pour aller s'attaquer à cette équation qui est effectivement pas tenable. Quant à la situation économique particulière de la séquence que nous avons, dont on ne connaît pas vraiment la fin, avec la guerre au Moyen-Orient, on a expérimenté durant le Covid quelque chose qui a bien fonctionné et qui vient de se clôturer, c'est les PGE. Les prêts garantis par l'État, ça a permis à chaque entreprise de trouver le bon calibre de ce dont elle avait besoin pour surmonter la crise. Ils ont été remboursés. À peu près toutes les entreprises ont remboursé ce mois-ci. Ça veut dire que malgré la situation économique très fragile de beaucoup d'entreprises, leur taux d'endettement a retrouvé un niveau d'épure à peu près acceptable. Il me semble.
Donc là, vous nous dites que ce mois-ci, la quasi-totalité des PGE ont été purgés par les entreprises. Ça y est, on a enfin terminé la crise.
On a purgé cette crise.
C'est une bonne nouvelle.
Je vous le dis.
On a l'antivirus qui arrive maintenant.
Je suis extrêmement heureux, je peux vous le dire.
Mais au moins, on a purgé.
Voilà, près de 5 000 euros de moins de remboursement par mois qui ont été.
Mais ça arrive au bon moment.
Ça arrive au bon moment, mais en tous les cas, c'était les délais réglementaires pour rembourser. Et donc, il y a cet outil qui reste un outil disponible. Et véritablement, il y a suffisamment de tension, me semble-t-il, pour mettre les syndicats, le patronat et le gouvernement autour de la table et aller régler cette question des trappes à bas salaire pour lequel toutes les parties prenantes peuvent trouver des marges de manœuvre, gouvernement et finances publiques.
Céline, un dernier mot et puis on va voir après si les quinquas sont has-been dans l'entreprise.
Oui, alors très rapidement, Raphaël, pour répondre à votre question, les études économiques, par exemple, ce qu'elles montrent, et je pense qu'il faut aussi garder en tête, c'est quand on se pose la question, est-ce qu'il faut augmenter les bas salaires? Alors, bien sûr, au niveau du SMIC, on se dit, évidemment, avec l'inflation, l'inflation, etc. C'est normal d'essayer de protéger mois, le pouvoir d'achat des plus pauvres. Mais en France, on est quand même un SMIC qui représente 61% du salaire médian. Donc on est assez haut, parce que dans d'autres pays, on est plutôt autour de 40%. Et le problème, c'est que quand on est à ce niveau-là, bah, quand on augmente d'un pour cent le SMIC, on fait baisser l'emploi de 15 à 30 000, en fait. Donc c'est ce que montrent les études économiques. Et par contre, c'est vrai, quand on a un SMIC qui est très bas, là, l'effet sur l'emploi, il est au contraire positif. Donc il faut juste garder ça à l'esprit, que cet effet de resserrement très important des salaires est pas très bon pour l'économie française. En plus, à mon avis, il est aussi désincitatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait pas rêver les gens en leur disant que, bon, je veux dire, ils sont sans arrêt rattrapés par le SMIC et qu'effectivement, il n'y a pas une évolution professionnelle. Donc par ailleurs, c'est pas non plus une grande une promotion de la méritocratie. Donc,
Je suis pessimiste sur la capacité à sortir de ça, même par le dialogue, parce que le problème, c'est que la situation que je décrivais sur le fait qu'on subventionne les bas salaires à mort avec les exonérations de cotisations patronales et la prime d'activité, et que de l'autre côté, on taxe à mort le travail qualifié, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants dans tout ça.
Oui.
Et dans cette économie française depuis 30 ans, et depuis singulièrement les allègements qui ont suivi les 35 heures, les gens qui payent, il y a des secteurs, on les connaît, hein, où la plupart des emplois sont des emplois au SMIC. Et donc ces secteurs-là, ils sont très gagnants à la situation. Est-ce qu'ils accepteraient une remise en cause de l'architecture de la courbe des cotisations sociales patronales en France ?
Hôtellerie, restauration, service à la personne,
exactement,
BTP.
Exactement, et même grande distrib et d'autres. Ce serait très très compliqué de leur faire accepter ça, alors qu'à côté de ça, si vous voulez être bon dans les services à haute valeur ajoutée, si vous voulez être bon dans l'industrie, faudrait clairement revoir cette courbe des allègements de cotisations patronales et globalement les niveaux de cotisations patronales. Il s'agit surtout pas de faire payer plus les entreprises françaises, au contraire. Mais en tout cas, il faudrait revoir ce profilage parce qu'aujourd'hui, il pénalise les activités à forte valeur ajoutée.
Ouais, on voit que c'est un véritable chantier présidentiel, hein, parce que ça pose tout le système de financement.
Je suis pas totalement certain que ce soit. Vous savez, plus on aura purgé les sujets compliqués avant la présidentielle, et j'allais dire, plus les candidats s'en porteront.
En tout cas, c'est bien qu'on en parle avant.
Il y avait 38 candidats.
Absolument. Allez, il est 9h passé de 47 minutes. Il faut qu'on avance. Je voulais qu'on parle. C'est la manchette du Parisien ce matin, la une du Parisien. Les seniors sont-ils périmés en entreprise? Trouvez le sujet intéressant. Est-ce qu'on est has-been à 50 ans? Peut-être ça me parle parce que moi j'y approche dangereusement, hein, mais je trouve
moi, je les ai bien dépassés,
ça devient
je les ai bien
dépassés, terrible. Jean-Charles Simon,
55 ans, et ce que je peux dire là-dessus, c'est que il y a deux choses. C'est un sujet très délicat à aborder parce qu'il y a la difficulté, la douleur même des situations individuelles qui est réelle.
Oui.
Et puis la réalité statistique et macroéconomique qui dit autre chose.
Ça va mieux.
Qui dit que ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire le taux d'emploi et d'activité des 55-64 ans, il a bondi de 25 points en 25 ans. C'est-à-dire plus 25 points en 25 ans.
Colossal.
Et le taux d'activité des 55-59 ans, cette fois, il est au-dessus de la moyenne maintenant de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a changé les règles des régimes de retraite, on a changé les incitations, on a supprimé.
C'est ça le moteur principal. Ce qu'il faut, c'est repousser l'âge légal de départ à la retraite.
Et si aujourd'hui vous poussez la retraite à 64 ans, vous aurez le même effet sur les 60-64 ans. Donc c'est le moteur principal, ça change les incitations des individus. Du coup, ça change aussi la façon dont les entreprises réfléchissent et doivent s'adapter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une situation très compliquée pour ceux qui perdent leur emploi à âge élevé. Parce qu'il y a deux situations à distinguer. Il y a celui qui est à âge élevé, qui est en emploi. Est-ce qu'on l'incite à aller plus loin? Ça, c'est le plus facile à faire. Et puis, il y a celui qui perd son emploi à âge élevé. Celui-là, sa situation est effectivement, malheureusement, pour des raisons culturelles, qui était qu'on traitait par les pré-retraites, on traitait par le départ rapide. On avait cette culture-là. On a un deuxième fait culturel qui est que tout le monde pense, et côté entreprise comme côté salarié, que plus on est senior, mieux on est payé. Alors, faut un peu essayer de casser aussi cette discipline-là. Et puis après, il y a des choses très techniques.
Mais c'est vrai, non? Enfin,
La France se distingue par une beaucoup plus grande linéarité que dans d'autres pays où ça augmente beaucoup moins à partir d'un certain âge que c'est le cas en France. Donc la vue de l'entreprise, c'est le salarié senior, il est cher, alors qu'il devrait se dire il doit être payé en fonction de ce que je vois comme efficacité sur le marché pour lui.
C'est une piste d'ailleurs de découupler l'ancienneté et la rémunération.
Absolument.
Ça peut être une piste.
Et juste le dernier point technique, c'est la possibilité de mettre à la retraite d'office les gens qui ont une retraite à taux plein. On a supprimer ça un peu démagogiquement dans les années 2000, et en fait ça sert quand même parce que l'employeur il se dit, je suis pas obligé d'avoir la personne jusqu'à 70 ans, je peux lui dire à 64 ans, 65 ans, écoute, tu as ta retraite,
il est temps de partir.
Ce n'est plus
le cas aujourd'hui.
J'ai plus le droit de faire ça, et je dois même indemniser en général très, très coûteusement, parce que sinon il y a le risque qu'on dise que j'ai discriminé la personne, etc. Donc il y a des petites choses juridiques et techniques qui jouent contre l'emploi des seniors.
Vous parlez de Mac macroéconomie juridique, mais la vérité des entreprises, c'est que on constate quand même une vérité sur les outils utilisés dans l'entreprise aujourd'hui. Les outils numériques sont moins bien utilisés par ceux qui ont durant 30 ans travaillé avec des outils différents.
Ça s'accélère tellement en même temps, c'est hyper compliqué.
Il va falloir. Non mais c'est une réalité. On est là pour poser des réalités concrètes que l'on connaît dans la vie des entreprises, dans la vie des entreprises quotidiennement. La question du rythme dans la vie du travail des gens qui ont dépassé 50 ans est une question qui se pose. La rapidité à utiliser de nouveaux outils, à s'en saisir, à les rendre opérationnels, à passer d'un sujet à l'autre, à être synthétique, plutôt que d'aller de réunion en réunion, à faire des longs rapports. Il y a une agilité.
Mais vous avez une vision terrible des quinquagénaires,
Léonidas. J'ai une vision réaliste de quinquagénaire.
Est-ce que je peux vous demander votre âge, cher Léonidas?
Aucun problème, j'ai 62 ans et la vérité des quinquagénaires, c'est qu'il y en a.
Vous ne semblez pas me perdre en vélocité ni en sagacité, écoutez, cher Léonidas.
Je ne sais pas si je perds en vélocité ou en sagacité. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y a une nécessité pour tous ceux qui veulent rester dans la dynamique du travail
de se former.
Évidemment. Et cette nécessité-là, elle est perçue par certains et je pense qu'ils trouvent très bien leur place. Et il y en a d'autres qui, quelque part, considèrent que la dynamique dans laquelle ils étaient doit perdurer. Ceux-là sont fragilisés. Eh bien, c'est à cela aussi de reprendre le train en marche, qui est peut-être pas très aisé à 50 ou 55 ans. C'est une nécessité. Ils sont véritablement fragilisés et menacés si cette prise de conscience ne leur traverse pas l'esprit très vite.
Oui, moi, je n'ai pas encore atteint cet âge canonique.
Vous avez raison.
Ça viendra, comme tout le monde.
Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même quelques solutions. Par exemple, comme je disais, découpler l'ancienneté et la rémunération. Après, il y a vraiment un énorme besoin de formation parce qu'on a tendance à voir que les formations s'arrêtent à 45 ans, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai effort à fournir de ce côté-là. Et je vais juste vous raconter une anecdote qui, je pense, c'est très parlante. Moi, donc à l'OFCE, je suis économiste senior depuis quelques années, bien que ce soit pas lié à l'âge, mais c'est pour démontrer l'expertise. Et un jour, j'ai une jeune journaliste, apprentie journaliste, qui m'appelle et qui me dit « Je voulais vous interroger sur les retraites parce que vous êtes économiste senior. » Alors, je lui ai expliqué que senior, ça voulait dire que j'avais a priori plus d'expertise. Et je pense que justement, c'est ça. C'est que les seniors ont aussi une expertise qui est plus importante, évidemment. L'expérience. Alors, bien sûr, pour les outils, tout ça, par des formations, on peut se rattraper, mais il y a quand même cette expérience qui est très importante. Absolument. Et une entreprise dont la pyramide d'âge type jeune pousse, dont la pyramide d'âge n'est formée que des gens de moins de 30 ans, c'est pas non plus souhaitable parce qu'il n'y a aucune expérience, il n'y a aucune mémoire de l'entreprise. Donc,
mais vous avez totalement raison.
On a vraiment besoin de toutes les catégories d'âge. Après, il y a aussi des systèmes qui existent à l'étranger, de tutorat, salariés plus âgés qui encadrent des plus jeunes. Enfin, il y a vraiment des choses à mettre en œuvre, je pense, pour faire en sorte que les mentalités évoluent. Parce que comme vous le dites, moi je pense qu'un grand moyen de faire évoluer les mentalités, c'est la réforme des retraites et ça a déjà porté ses fruits.
Sont totalement liés.
Voilà, sur le taux d'emploi, mais après, en termes de mentalité, il y a aussi la manière dont on considère le senior dans l'entreprise. Il faut que lui-même, il ait...
Il n'y a pas que les cadres généraux et macro, ou j'allais dire gouvernementaux. Je veux dire, certes, il y a des choses à faire sur les retraites, mais c'est à nous également, dans le monde entrepreneurial, d'accompagner cette formation et de faire que l'expérience se combine avec cette vélocité qui est vraiment une marque de fabrique de l'époque dans laquelle nous sommes.
Oui, mais je crois que quand on regarde les exemples étrangers, il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait moins de seniors en emploi qu'ailleurs. Il n'y a pas de raison qui ferait que les entreprises...
On a un cas particulier,
les
entreprises en France ou pas, par rapport à nos voisins
européens. Alors, pour l'instant, on est plus bas sur les 60-64 ans, mais comme je le disais, on a rattrapé notre retard sur les 55-59. Donc, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, les incitations au départ en retraite plus tard sont majeures. Le deuxième point, c'est que moi, je ne crois pas à l'obsolescence des seniors. Je crois à la spécificité des expertises en entreprise entre des gens plus jeunes, des gens qui ont effectivement une connaissance de technologie moderne qui est plus élevée, et puis des seniors qui apportent d'autres choses. Je crois qu'il y a, en complément de ce qu'on disait, effectivement, la question de la rémunération avec l'ancienneté, il y a quelque chose d'important à essayer de découpler dans la culture. La deuxième chose, c'est que ce qu'on voit à l'étranger, c'est qu'il y a plus de seniors qui sont indépendants, c'est-à-dire qui créent leur entreprise de conseil, etc. Et donc ça, c'est une culture française qui n'est peut-être pas encore complètement développée de la même façon. Et il y a plus de seniors à temps partiel. Et le temps partiel en France, il est toujours vu comme étant quelque chose, je dirais, de sortie progressive d'entreprise, ou en tout cas de non-accès à ce qui est peut-être peut-être le plus intéressant ou le plus important dans l'entreprise. Là aussi, dans les pays du Nord notamment, on a un peu une autre culture, ce qui fait que on combine à la fois des souhaits des personnes seniors qui va être de se consacrer pas exclusivement à son travail et une capacité pour l'entreprise de bien utiliser à un coût raisonnable le senior dans l'entreprise. Donc, je crois qu'il y a plein de choses comme ça à mettre en place, mais il n'y a aucune fatalité, il n'y a pas de raison qui ferait que les entreprises françaises et les seniors français ne sauraient pas faire ce qui se fait partout ailleurs. Donc, je pense qu'on va combler ce retard sur les 60-64 ans et même d'ailleurs au-delà des 65 ans.
Il faut en tous les cas que le monde entrepreneurial se prenne en main sur ce sujet et accompagne ce gap de génération. La rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle s'est propagée dans le monde économique a été quelque part un choc, un contraste dans les pratiques professionnelles. Et je pense que ceux qui tardent à prendre ce train en marche qui va extrêmement vite, sont, d'ailleurs, je dirais à juste titre que ce n'est pas uniquement les plus de 50 ans qui peuvent tarder à prendre ce train en marche. Désormais, ça fait partie des outils et des pratiques professionnelles, c'est-à-dire même ça devient un langage entre clients et entreprises, donneurs d'ordre. Et si ce langage-là n'est pas rapidement maîtrisé, je pense que l'on fragilise des gens qui sont potentiellement très riches pour l'entreprise. Il faut que ce rattrapage se fasse et c'est dans le monde de l'entreprise qu'il doit se faire.
Mais là aussi, c'est un phénomène mondial. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ait 45% des 60-64 ans au travail en France et 75% dans des pays du Nord. Il n'y a pas de raison. Donc, je pense que si vous voulez, effectivement, il y a des questions de culture qui vont jouer et qui sont importantes. Et on les a évoquées, je pense, à peu près, les différentes pistes. Mais fondamentalement, l'incitation, ça va être que je ne peux pas partir avant 65 ans ou pas avoir avec une décote forte. Et donc là, je vais mettre tout mon effort pour rester dans l'entreprise, me former. Alors qu'avant, j'avais une incitation, si vous voulez, c'était très clair.
Il y avait une filière
senior de 36 mois à l'assurance chômage. Ouais. Donc à 60 ans, vous aviez négocié votre truc et vous cherchiez plus d'emploi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que non seulement le chômage des seniors est faible, mais même le halo autour du chômage des seniors est faible. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont soit au chômage, soit en se disant « je voudrais travailler plus, je ne suis pas déclaré comme chômeur au sens du BIT, mais je voudrais travailler plus ». Il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment aussi des questions d'incitation. Aujourd'hui, avec les carrières longues, c'est un tiers à peu près des personnes du régime général qui ont le droit de partir à partir de 60 ans. Vous avez les gens de 63 et 64 ans qui mécaniquement peuvent faire valoir leur droit à la retraite dans les règles actuelles. Donc vous avez beaucoup de gens dans les 60-64 qui sont pas forcément incité, et c'est tout à fait légitime, que du coup, dans leurs incitations rationnelles, ils se disent, je cherche pas d'argent.
Donc, c'est tout à fait rationnel comme choix, effectivement. Homo economicus est toujours là. Et comme le dit Davidia sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à réagir, @legendra. Au Danemark, il n'est pas rare d'avoir des salariés de 70 ans en entreprise. C'est aussi une question de culture, bien évidemment. Allez, ne quittez pas, on se retrouve dans une petite minute après une courte pause publicitaire. On va parler tension obligataire, alerte sur la dette. Le taux à 10 ans français dépasse les 3,80%. Mais c'est une...
Plus bas que d'autres pays très très menacés sur leur dette.
On va en parler justement. C'est un peu l'ensemble des marchés monétaires là qui se sont tendus très brutalement. Est-ce qu'on va vers un krach obligataire, un krach des marchés au sens large? On va en discuter ensemble et puis on reviendra sur le G7 Finance qui se tient ce matin même à Bercy pendant que nous parlons. On va décrypter les enjeux de cette rencontre internationale au sommet. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Les experts, notez bien le nouvel horaire, 9h30, 10h30, toujours en direct et toujours tous les jours sur BFM Business, avec autour de la table Jean-Charles Simon, Céline Antonin et Leonidas Calogeropoulos. On va parler de ces tensions obligataires qui ont marqué la fin de semaine dernière. Je le rappelais tout à l'heure, on a dépassé les 3,80 sur l'OAT française, mais c'est sur le UK, c'est pire, sur les Américains, idem, l'Allemagne a passé les 3%. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez Céline, je commence avec vous. Oui. Pourquoi ce brutal regain de tension sur le marché de la dette.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'une part, il y a une inflation dont on voit bien qu'elle va pas faiblir aussi rapidement. Il y a la question du détroit d'Ormuz. Il y a la question, donc effectivement, énergétique, d'approvisionnement également, puisque on a vu que les coûts d'approvisionnement avaient beaucoup augmenté. Les métaux rares, les engrais, enfin bref, donc tout ce qui transite par ce détroit. Donc on a d'une part ça. D'autre part, on a quand même, je pense, une crise de crédibilité budgétaire qui est en train de s'installer aussi. On le voit dans pas mal de pays.
Là, on va pas être bien.
Avec des dettes publiques qui ont augmenté, alors oui. Déjà avec la crise de la Covid d'abord, et puis aujourd'hui on est effectivement à des niveaux beaucoup plus élevés d'endettement dans plusieurs pays de la zone euro et ailleurs, hein, enfin donc que ce qu'on a pu connaître, et on a une politique effectivement expansionniste, et en fait on a l'impression que même les banques centrales ne savent pas trop quoi faire, parce que elles sont un peu coincées entre d'un côté une inflation qui repart, et de l'autre, enfin donc ce côté inflationniste, de l'autre des dettes publiques importantes, enfin c'est voilà, donc c'est une équation qui est à mon avis très difficile à résoudre, et je pense que c'est pour ça qu'on voit un emballement. Alors j'ai vu que la Grèce ça allait un peu mieux, ce qui est assez paradoxal.
Mais oui, elle rembourse sa dette en avance.
Ça très intéressant. Donc, de voir devant cette flambée des taux que la France s'en tire pas si mal.
Oui, par rapport à d'autres pays. Ça, oui.
Non, mais c'est intéressant parce que en Grande-Bretagne, il y a.
Enfin, on s'en tire pas si mal. On est à 3,82%.
On est plus cher que la Grèce là.
Oui. J'entends bien. Non, mais
bon, ils émettent pas beaucoup.
Non, mais il y a une augmentation générale. Donc, on est frappé par l'augmentation générale. Mais dans ces augmentations générales, la Grande-Bretagne est beaucoup plus mal
lotée. Oui, le spread franco-allemand est assez stable.
Est stable. Non, mais voilà, c'est ça la très, très bonne nouvelle.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans une situation politique française inédite, on peut aussi voir que nous avons les bénéfices de la stabilité que le Premier ministre a réussi à conquérir au prix de concessions que nous avons beaucoup
que nous risquons de payer longtemps
et effectivement dont nous sommes beaucoup plaints. Mais il y a une résultante de tout cela, c'est qu'il y a un gouvernement qui tient, qui tient sa part de cap sur les déficits, oui. Et donc nous avons là l'annonce des 6 milliards qui crée tous les débats que l'on connaît en interne, mais néanmoins le signal qui est donné, c'est que la France est gouvernée, qu'elle pilote sa dette, et le résultat c'est que l'augmentation généralisée ne nous impacte pas autant que d'autres. Je trouve que c'est plutôt une nouvelle rassurante, il n'y en a pas beaucoup. Quant à savoir si, si la flambée des taux est une flambée qui nous menace de la crise. J'ai globalement l'impression que les tensions, on les connaît. Il y a l'inflation, il y a le carburant, il y a le détroit d'Ormuz, mais que ça n'a pas véritablement bouleversé les fondamentaux de l'économie mondiale. On n'est pas encore en situation de crash. Alors, si tout ça tient, alors s'il y a des tensions, la question que vous posiez, c'est est-ce qu'on va droit dans un crash ?
Est-ce que les marchés vont craquer ?
Moi, mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste, un expert des marchés, c'est que on craque quand il y a une multiplicité de fondamentaux qui sont fragilisés. Là, on a quelque chose qui est très conjoncturel, et donc c'est normal qu'il y ait des tensions. Est-ce que on va droit au crash à cause de quelque chose qui est conjoncturel
ou même structurel, parce que je pense qu'on a aussi une normalisation sur le marché de la dette. On a connu des années avec effectivement des politiques, même en termes de taux directeurs, de l'assouplissement quantitatif, etc. Et je pense qu'on est aussi vers une normalisation. Alors après, ça pose des questions parce qu'on a géré la dette avec une politique de taux très bas, sachant que ça coûtait pas grand-chose. Là, ça pose toute la question, effectivement, de comment on envisage des finances publiques durablement dégradées dans un environnement de taux plus normaux. Et je pense que c'est ça toute la question. C'est d'arriver à faire cette bascule, en fait.
Ouais, moi, sur le cas français, je vois pas d'exploit. Hein. Je vois quelque chose qui est normal par rapport au contexte européen global. Pour ce qui est de la situation globale, il faut quand même dire que l'administration américaine a un peu planté tout le monde, parce que c'est une succession de décisions de l'administration américaine. D'abord, une décision sur les... On l'oublie maintenant, mais sur les tarifs douaniers, qui est quand même majeure et qui crispe les échanges mondiaux, qui remet de l'inflation dans tout le circuit de l'économie mondiale, dégouler d'étranglement un peu partout. Par-dessus ça, la guerre avec l'Iran qui se déroule pas de manière optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque on a une situation dégradée le Golfe Persique par rapport à ce qui était avant, et on voit au mieux le retour ex ante sur la circulation maritime dans le Golfe Persique. Donc tout ça évidemment est pas favorable, des menaces régulières d'aller de poursuivre la guerre plus agressivement, et donc tout ça pèse aussi. Et puis budgétairement, faut pas oublier que les États-Unis eux-mêmes sont les premiers fauteurs de troupes, parce qu'ils sont les premiers à aller très très loin dans l'expansion budgétaire, avec à la fois des mesures fiscales et des mesures de dépenses. Et tout ça, bah, ça pèse aussi. Ça veut dire quand même beaucoup d'inondations d'émissions sur le marché pour ce qui est des titres souverains que les gens peuvent rechercher. Et les trésors, les trésoreries, elles sont évidemment la première souche sur laquelle on tire.
Oui.
Donc tout ça fait quand même pression. Et là-dedans, on ne voit pas vraiment... Alors, les banques centrales, effectivement, vous avez raison, elles sont un peu coincées, d'autant que moi, je ne suis pas complètement convaincu que la séquence de remontée des taux ait vraiment été la cause de l'assagissement de l'inflation par rapport à la période Covid. Bah, c'est le grand discours de la BCE et de ça, et de la Banque de France, c'était quand même plutôt une cause, justement, une cause qui était relativement exogène. Donc, c'était pas nécessairement un système d'emballement type années 70. C'était pas du tout ça. Donc, on était sur quelque chose de différent, et puis qui s'est résorbé à partir du moment où toutes les contraintes post-Covid tombaient.
C'est un choc de prix plus qu'une inflation.
Oui,
exactement.
Ça, c'est important, parce qu'il y a une différence entre l'inflation externe, l'inflation d'origine externe. Absolument. Un choc pétrolier, je veux dire, la Banque centrale peut faire ce qu'elle veut, elle n'enrayera pas le fait que
le baril est à 120,
bloqué. 110 ou 120. En revanche, c'est vrai que là où la Banque centrale a un rôle à jouer, c'est quand il y a un surcroît de demande interne, c'est quand il y a de l'inflation interne, et qu'il y a la fameuse boucle prix-salaire qu'on évoquait tout à l'heure.
Et on n'en est pas tellement là, puisqu'au contraire, les perspectives d'activité quand même commencent à se dégrader. C'est-à-dire que tout le monde commence à dire, c'est pas encore le drame, mais tout le monde commence à réviser plutôt à la baisse, FMI, Banque mondiale, OCDE, à réviser un peu à la baisse les perspectives de croissance pour tout le monde. Ouais. Alors, ça devrait, a priori, éviter d'alimenter, mais si la partie offre continue d'être aussi contrainte et malmenée, comme c'est le cas avec Hormuz, bah forcément, ça, c'est difficile à gérer, et c'est pas les hausses de taux qui vont changer ça. Donc, c'est ça qui est compliqué dans l'action d'aujourd'hui. Et tant que l'administration américaine ne reviendra pas à quelque chose qui est à la fois plus lisible, plus prévisible, et qui ne n'enflamme pas de manière récurrente les marchés, bah c'est clair qu'on aura du mal, à mon avis, à rentrer dans une zone de normalisation. Et c'est vrai que la zone de normalisation, c'est pas les années 2010. Hein, vous avez là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous, les années 2010, c'est des années anormales.
Oui, tout à fait.
Mais malgré tout, là, on est aussi dans une période atypique, parce qu'il y a un comportement d'une administration dans sa politique étrangère, dans sa politique commerciale, qui est particulièrement déstabilisatrice.
Bon, mais l'atypique, il est un peu permanent depuis la crise financière, c'est ça.
Il y a plus de
c'est le nouveau, typique, je puis dire.
Maintenant, la réponse à cette situation par le G7, c'est intéressant. On se demande presque d'ailleurs s'il ne faudrait pas un G6, parce que l'un des problèmes majeurs qui va devoir être abordé dans ce G7, c'est le comportement de l'un des membres, qui est effectivement le comportement des États-Unis.
Eh oui.
Donc, est-ce que le G7 est le bon endroit pour que les 6 autres s'adressent aux États-Unis pour leur dire, écoutez, vous êtes quand même en train de totalement déstabiliser l'économie mondiale, et vous n'êtes plus véritablement dans un comportement d'allié, mais il n'est plus en comportement d'allié sur le moindre sujet.
Avant qu'on passe au G7, effectivement, Céline Antonin, je voulais qu'on vienne quand même sur d'un mot, mais c'est l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Alors qu'il n'est pas à Paris ce matin, c'est le numéro 2 de la Fed qui a été envoyé finalement. Mais il arrive dans un contexte quand même très particulier, Kevin Warsh, avec cette flambée des taux-là.
Oui,
qu'est-ce qu'on attend de lui à court terme ? Quels sont ces défis ?
Alors lui, c'est vrai qu'en plus, il a plutôt un profil hawkish. Alors je cherche le mot en français, donc plutôt dur, quoi. Enfin, par rapport à l'inflation, je veux dire.
Faucon.
Voilà, exactement, faucon. Merci. Je ne trouvais plus l'animal. Donc
par opposition aux colombes.
Voilà. Donc c'est plutôt le. Mais il va devoir gérer effectivement à la fois l'inflation et le ralentissement économique.
Ça veut dire.
Économique.
Mais si vous dites qu'il est hawkish, faucon, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des hausses de taux.
Normalement,
de,
mais en même temps, Trump.
Enfin voilà. Trump veut le contraire.
Trump veut le contraire.
Le marché de l'emploi est quand même pas au mieux non plus aux États-Unis, et où le président réclame absolument le contraire.
Tout à fait. Donc il est pris en tenaille entre ce ralentissement économique, l'inflation d'un autre côté. Donc j'ai beaucoup de mal à voir la manière dont il va piloter les choses. J'avoue que c'est pas très clair.
Moi je pense que justement, comme il a été suspect d'être une sorte de nomination du fait du prince,
oui.
Je pense qu'il va vouloir justement se démarquer de ça et qu'il va plutôt aller vers une hausse des taux.
Il avait un profil plutôt rassurant. Hein. Voilà. Il a été bien accueilli par les marchés.
C'est pas un
professionnel.
Par rapport à d'autres nominations de l'administration américaine ou des pouvoirs américains où il y a quelques quand même pour le moins discutable, il n'est pas discuté en termes de compétences et de savoir-faire. Il peut être discuté en termes effectivement d'indépendance de la Fed par rapport au pouvoir politique. C'est ça qu'il va vouloir, à mon avis, justement, essayer de surmonter au moins au début, en disant, écoutez, je suis indépendant, j'exerce pleinement mes pouvoirs de gouverneur, et donc, première décision, le président est peut-être pas content, mais je dois réaugmenter les taux parce que la situation sur le front de l'inflation est telle aux États-Unis qu'il faut essayer de figer un peu de cette poussée et de la contenir.
Je pense qu'il va plutôt être dans cette attitude-là. Parce que s'il suit strictement son mandat, mais c'est vrai qu'il y a aussi la question aux États-Unis, contrairement à la BCE, de l'emploi et
c'est un double objectif.
Elle n'a rien à faire du tout.
Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, il va peut-être rester sur un statut quo.
Je serais surpris qu'il accède à la volonté de Trump de baisser les taux, parce que là, pour le coup, tout le monde lui tomberait dessus sur le thème. Écoutez, c'est pas raisonnable et c'est pas conforme à la situation macroéconomique américaine aujourd'hui. Mais on verra effectivement.
Ce sera un vrai test pour l'indépendance de la réserve fédérale américaine.
Et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu les hommages que François Villeroy de Galhau a rendus à Jérôme Powell, qui était à Paris il y a quelques jours. C'est vraiment un cycle qui se termine, c'est-à-dire de rapport très très autonome au pouvoir politique et d'exigence d'indépendance de toutes les banques centrales qui s'entendaient bien entre elles. Là maintenant, on en se retrouve avec une qui a au moins, je dirais, une forme d'attitude et de rapport à son pouvoir politique qui est différent de ce qu'elle était quand on avait à Jackson Hole les meetings des banquiers centraux qui étaient tous alignés sur le fait de dire c'est pas la politique qui va dicter notre choix en matière de politique monétaire.
Question courte, réponse courte à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il faut craindre un crack sur les marchés après cette poussée des taux, Léonidas?
C'est pas mon sentiment.
Moi non plus.
Céline?
Moi non plus.
Jean-Charles? Voilà, donc tout va bien. Pas de panique, on peut continuer à investir sur les marchés selon les experts. Ce matin, on en vient au G7 Finance. Oui. Effectivement, où le numéro 2 de la Fed est arrivé ce matin, Scott Bessent aussi, et l'ensemble des grands argentiers des 7 grandes puissances économiques mondiales. Au programme, rééquilibrer le commerce mondial, réduire la dépendance aux minerais critiques chinois, soupeser l'impact de la guerre au Moyen-Orient, un menu chargé, bien sûr, mais des participants rarement alignés. Alors, ça sera tout le but des Français, hein, trouver une ligne commune entre des positions parfois divergentes. Léonidas, est-ce qu'on peut encore discuter entre nous à l'heure des empires ?
Écoutez, je pense que de toute façon, la nécessité pour l'Europe élargie, j'allais dire, c'est une nouvelle notion. On est en train d'intégrer le Canada à l'Europe. Je trouve que c'est une belle image.
C'est intéressant
de trouver que le Canada se ressent plus proche de l'Europe que de son voisin frontalier. Mais il y a en tous les cas la nécessité de le faire. Et je vois bien que sur un certain nombre de sujets, comme par exemple le fait de libérer les réserves de carburant pour faire baisser la pression sur les tensions pétrolières, ça a été une décision collective.
Oui.
Donc il y a quelques sujets, probablement les terres rares, pour lesquels on peut se coordonner. Il y a manifestement des sujets sur lesquels on peut prendre des décisions, donc il faut le faire. Encore une fois, mon point de doute, c'est est-ce que ce G7 accueille à bon droit les États-Unis ? Les États-Unis, avec le problème du numérique, la question des douanes, les guerres intempestives, la menace de ses voisins, l'abandon de ses alliés. Les États-Unis sont aujourd'hui le problème principal auquel nous avons à faire face.
Alors la question, c'est est-ce qu'il faut mieux en parler avec ou le sortir du
donc pour moi, la principale question de ce G7, ce n'est pas que le G7 se réunisse entre alliés qui veulent travailler en commun pour répondre aux défis majeurs qui sont devant eux, c'est est-ce que, il ne s'agit pas de dire que les États-Unis États-Unis, c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi, mais c'est aujourd'hui dans la logique des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Russie sont aujourd'hui des puissances par rapport auxquelles le reste du monde doit s'organiser. Je verrais davantage d'efficacité aujourd'hui à avoir un G6 efficace et qui prenne des décisions qu'un G7.
Vous sortiriez les États-Unis
sans grand
au banc des grandes puissances mondiales.
Pas du rang des grandes puissances mondiales, mais oui. de la coalition des grandes puissances qui réfléchissent à un positionnement cohérent face aux autres. Oui, je pense qu'aujourd'hui... Nous
bon, bah voilà la preuve que le multilatéralisme... Je pense qu'il faut, malheureusement, je comprends complètement ce que dit Leonidas. Je pense qu'il faut justement essayer de continuer à se parler. Il faut essayer de continuer à se parler un maximum. Scott Bessent est d'ailleurs pas le plus mauvais interlocuteur de l'administration américaine, loin s'en faut, en essayant de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver quand même, puisqu'on voit bien qu'on est dans une situation qu'on vient d'évoquer juste avant, qui se complique pour tout le monde, parce que c'est pas bon non plus pour le trésor américain ce qui se passe. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de faire descendre la pression qui existe depuis le Liberation Day, l'élection de Trump? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui soit constructif, qui soit dans vos marges de manœuvre politique et qui nous permettrait de faire quelque chose de positif? Moi, il y a un autre acteur dont je trouve la position intéressante, vous l'avez peut-être vu dans les échos, c'est Rachel Reeves, la chancelière de l'échiquier britannique, qui elle essaie de jouer un jeu en disant me mettez pas à côté les Européens, moi j'ai vraiment envie. Et on voit, c'est pas du parce que là c'est vraiment un pays qui souffre en termes de crise politique interne. Bravo. Et donc de conséquences justement sur les taux britanniques, avec un risque à nouveau d'emballement à la Liz Truss de 2022, en disant écoutez, non mais moi je veux vraiment coopérer avec vous,
elle souhaite reconstruire une relation plus forte avec l'Union Européenne,
on retrouve des marges de discussion et puis de la communauté de décision. Et on peut pas dire à notre population qu'on veut revenir en arrière sur le Brexit, mais en fait, on aimerait bien que les effets soient moins forts que ce qui a été décidé au moment de la séparation. Et c'est vrai notamment sur le secteur financier, parce que un des grands objectifs de la City, c'est d'essayer de récupérer ce qu'elle a perdu dans au bénéfice de Paris largement, ce qu'elle a perdu à ce moment-là avec le Brexit. Et donc, évidemment, les Britanniques veulent essayer de pouvoir continuer à être le grand vendeur de services financiers au monde entier, avec l'Europe derrière, et c'est pour eux un enjeu important, y compris de retrouver justement du soutien d'investisseurs qui, là, s'inquiètent de la situation du Parti travailliste et de leur...
Juste un complément, Jean-Charles. Il y a un pays qui, je trouve, aurait totalement sa place dans ce G7, c'est la Norvège, qui est le grand allié des pays occidentaux sur la question de la fourniture énergétique. Heureusement qu'on a le gaz norvégien. Qui est un grand allié de l'Europe sans être dans l'Europe? Il y a là un modèle de coopération rapprochée qui pourrait très très bien convenir à la Grande-Bretagne et qui permettrait d'avoir
il y a différents cercles de coordination.
Exactement, des cercles concentrés de coordination.
Européens géographiques,
si
je puis dire.
Et nous avons absolument besoin d'avoir cette grande Europe, si je puis dire, qui dépasse les frontières de l'Union et dans laquelle les États ont totalement leur place, qui doit devenir une puissance, qui n'est pas une puissance conquérante et dominatrice comme le sont les autres, mais qui est une puissance stabilisatrice. Et je pense que cette capacité que nous avons à créer ces alliances, à prendre des décisions cohérentes, ça a véritablement du sens par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait des cercles dans lesquels on discute avec les États-Unis, mais on voit bien que ce G7 ne va pas pouvoir aller très très au-delà de ce dialogue.
C'est rarement le cas. Oui, c'est ce que j'allais dire en même temps. Les G7, à part négocier des virgules sur des communiqués...
D'accord, mais on a des choses à bâtir pour rééquilibrer le monde majeur en termes du multilatéralisme, sans les États-Unis, avec d'autres pays, et cette nouvelle combinaison, je crois, est en cours.
Leonidas Calogeropoulos, c'est pour un multilatéralisme régional. Mais on vient les États-Unis. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que lorsqu'on met le Canada, on met dans le régional? Je ne sais pas.
Bon, moi, je souscris par tout ce qui a été dit par Jean-Charles et par Leonidas, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je pense qu'il y a, il y a un aspect important qui est la capacité de l'Europe, en fait, à s'affirmer comme puissance. Et je pense que c'est l'occasion de le voir aussi lors de ces sommets, parce qu'on voit que les États-Unis ont quand même, bon, je veux dire, ils ont leur voix, ils ont leur message. La Chine défend ses intérêts très bien. L'Europe ne le fait pas toujours à très bon escient. Et il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment de consensus, où les pays quand même jouent chacun de leur côté. Et donc, je trouve que malheureusement, souvent, ce genre de rencontres montrent justement les dissensions européennes, et ça, je trouve que c'est ce qu'il faudrait en fait éviter à l'avenir, et c'est ce qui, moi, m'interpelle en général le plus. Parce qu'effectivement, il se négocie pas des... beaucoup de choses, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même en général des puissances assez offensives,
oui.
Et que l'Europe est finalement celle qui l'est en général le moins. Et donc, bon, je pense que ça doit nous interroger sur notre capacité justement à pas être des bisounours en fait ouais. aujourd'hui.
Oui,
donc,
mais vous voyez, la capacité que l'on a à faire travailler différents pays ensemble sur les terres rares pour se libérer de l'emprise de la Chine, je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Et il y en a un certain nombre. Je pense que, vous voyez, le numérique est un sujet sur lequel nous gagnerions à avoir une véritable coordination des États qui ne souhaitent pas être dans un jardin de bien encadré, on appelle ça des walled gardens, et c'est principalement les acteurs américains. Je ne vois pas ce que l'on peut aller chercher en termes de consensus sur le numérique en ayant les États-Unis autour de la table. Ce sont pourtant des sujets majeurs.
Ça, je suis tout à fait d'accord, mais simplement sur, par exemple, les questions des GAFAM et autres, on voit bien que même au sein de l'Europe, on a quand même des difficultés
oui.
à avoir un consensus.
Mais là, on n'a pas la même position.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est... Après, c'est difficile d'aller porter une parole quand déjà, nous, on n'est pas capable de nous mettre d'accord entre Européens. Et c'est vrai que...
C'est la faiblesse intrinsèque.
C'est pour moi,
la faiblesse intrinsèque du système, c'est que bon, il y a quelques sujets en politique étrangère, ça ne va pas trop mal entre pays européens, mais sinon, les sujets de fond, y compris d'ailleurs de renforcement de la puissance économique européenne, qui est le cœur du sujet quand même. Le cœur du sujet pour nous, aujourd'hui, pour nos pays, c'est qu'on est... en train de perdre du terrain et que ce terrain, on en a pas mal perdu depuis la crise financière et on continue de le perdre. Et on continue de le perdre parce que on ne sait pas faire les réformes, on ne sait pas gouverner l'Europe de manière efficiente en termes de prise de décision, notamment parce que l'absence de règles à la majorité sur
la règle de l'unanimité, effectivement,
est un problème majeur et nous empêche d'avancer efficacement et de vraiment avoir une rapidité de décision et une puissance de décision qui nous permettrait d'être vraiment cette puissance économique. Et puis, d'unifier les choses.
Ça progresse.
J'ai été très frappé par l'audition d'Arthur Mensch, parce que c'est quelque chose que je vis depuis 25 ans, où j'ai été lobbyiste.
Et vous pouvez revoir sur le site de l'Assemblée nationale, elle est absolument
Elle est passionnante, parce qu'il dit, il va tout de suite au cœur des choses en étant la victime de ça, c'est-à-dire que je veux, comme licorne européenne, me développer rapidement. Bah, en fait, j'ai 27 marchés du travail, j'ai 27 fiscalités, j'ai 27 règlement sur la création d'entreprise. Donc j'ai des contraintes qui font que ce marché unique dont on me parle tout le temps, il n'existe pas dans les faits. Il n'existe pas. Je suis obligé d'aller lutter pour faire ce que quelqu'un qui est à San Francisco et qui veut vendre à New York et dans le Texas n'a pas à faire. Et donc je suis fragilisé par rapport à mes concurrents là-dessus. Je suis fragilisé parce que ce grand marché, justement, il n'existe pas. Et je suis fragilisé aussi parce que j'ai pas un grand marché des capitaux aussi puissant que le marché américain ou la puissance étatique chinoise derrière. Et ça, je l'ai pas, notamment parce que, on revient à des sujets de départ, parce que j'ai pas de retraite en fonds de pension. Et donc, j'ai pas assez de capitaux à fond qui arrivent derrière et qui font un marché aussi développé qu'il l'est dans les deux grands empires.
Ce qu'a rappelé Mario Draghi la semaine dernière,
oui,
Aix-la-Chapelle,
tout à fait. Et une illustration de notre faiblesse. Alors, je souscris complètement à ce que vous avez dit, mais une illustration aussi, en plus, de notre faiblesse en tant qu'Européens, où on est quand même un peu la victime sacrificielle. Enfin, je caricature à grand trait, mais de ce qui se passe aussi entre les États-Unis et la Chine, c'est que je prends l'exemple de ce qu'a écrit récemment le CEPI sur le second choc chinois, justement sur l'idée que bah, puisque les produits ne vont plus aux États-Unis, bah, en fait, ils inondent l'Europe. Et c'est vrai qu'on est quand même assez démunis face à ça. Et donc, je pense que la grande question qu'on doit se poser, avant même le G7, c'est comment nous, Européens, on arrive à être une puissance et comment...
C'est frappant. Voilà, vous avez vu tous les mouvements des fabricants d'automobiles chinoises qui disent, bon, bah, en fait, il faut que j'écoule en Europe parce que c'est mon seul grand marché développé sur lequel je peux écouler. Puisque Trump me ferme le marché américain.
Alors colossale. Que l'automobile allemande aurait, enfin je veux dire, l'automobile allemande aurait de quoi essayer de devenir un leader sur l'électrique et autres.
Dans les grands ports européens, vous voyez tous les stocks de BYD et d'autres constructeurs qui sont à écouler et à vendre chez nous.
C'est ça. Mais il y a des pays qui accueillent très volontiers justement
BYD. Mais cette puissance-là, il faut qu'on s'en rende compte comme étant un facteur un levier de puissance.
Ouais.
Ce n'est pas uniquement un levier de vulnérabilité. Encore faut-il que nous nous sentions, légitimes à un moment donné, pouvoir mettre des droits de douane qui soient des droits de douane dissuasifs et qui soient des ripostes.
Oui.
Je pense que si nous ne sommes que dans une posture consistant à dire nous voulons dialoguer pour trouver des consensus, non, on ne va pas pouvoir dialoguer pour uniquement ne va pas uniquement résoudre par le dialogue le fait de dire aux Chinois que l'on ne va pas laisser notre marché être totalement envahi dans le textile, dans l'automobile.
Mais on est dans une position compliquée parce qu'aujourd'hui, on est une puissance quand même exportatrice, l'Union européenne, vis-à-vis du reste du monde.
Et c'est 365 milliards d'excédents, la balance courante,
évidemment, le jeu...
Des questions d'équilibre.
Oui, le jeu de la guerre aux tarifs, elle n'est pas forcément évidente côté européen.
D'accord, mais entre le rien du tout et l'épure bien calibrée.
Je crois vraiment qu'on devrait se focaliser d'abord sur nos problèmes internes. Comment faire de l'Europe une grande puissance économique moderne qui permet de se dire que justement on n'est pas à la traîne,
Je pense qu'on est d'accord sur le fait que nous n'allons pas uniquement devenir une puissance économique en régulant les puissances des autres. Il faut que nous-mêmes devenions une puissance, et c'est le cas notamment dans le numérique, où on a pensé qu'en mettant des règles de partout, on allait pouvoir se protéger. Non, on ne se protège pas. Le raz-de-marée est tel que si nous n'avons pas nos propres acteurs à mettre en face des GAFAM, eh bien, on va se laisser couler. Donc, bien entendu, nous devons être puissants. Mais il y a aujourd'hui un raz-de-marée. Il y a un raz-de-marée sur le textile, il y a un raz-de-marée sur l'automobile électrique venant de la Chine. Il y a un raz-de-marée sur le photovoltaïque. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels le temps nécessaire pour que nous devenions une puissance économique capable de rééquilibrer le marché est un temps que nous devons sauvegarder.
Oui, mais
On
s'est en partie mis nous-mêmes le handicap. Je prends la voiture électrique, on s'est mis en partie nous-mêmes la contrainte en faisant en sorte que nos champions des véhicules thermiques les plus propres possibles soient finalement l'herbe coupée sous le pied parce qu'ils ne pouvaient plus ne pas attendre la transformation et le basculement vers l'électrique, alors même qu'ils partaient en retard sur l'électrique.
Il nous faut surtout des règles qui ne désavantagent pas les Européens. C'est surtout que en fait on importe aussi des produits avec des normes qu'on ne demande pas, qui sont beaucoup plus exigeantes pour les nôtres que pour ceux de l'extérieur. Et ça, aucun pays ne le fait en fait. Je veux dire, tous les pays essayent quand même de promouvoir qu'on ait une politique industrielle aussi.
Ce sera le mot de la fin. Qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied. Ce sera le mot de la fin par Leonidas Kalogeropoulos, que je remercie, ainsi que Céline Antonin, économiste à l'OFCE, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. Merci pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, sur toutes les plateformes de diffusion, bien sûr. Tout de suite, c'est Air et Défense. Vous retrouvez Jean-Baptiste Huette. Quant à nous, on se retrouve demain, 9h30, 10h30. C'est le nouvel horaire des experts. Très bonne journée à tous.
Les experts, débat et controverses sur BFM Business.